Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Rendez hommage au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. Mes très chers frères, ce n'est pas souvent que les prêtres ont l'occasion de prêcher sur les textes de la messe des Rogations. C'est aujourd'hui la fête de Saint Marc, évangéliste, qui tombe à la place du troisième dimanche après Pâques. Et il se trouve que nous disons la messe des Rogations avec la messe de Saint-Marc et la messe du troisième dimanche en mémoire. C'est donc l'occasion, mes très chers frères, une occasion assez rare, en tout cas pour un dimanche, de pouvoir nous pencher sur les textes de la messe des Rogations. La messe des Rogations, vous la trouverez facilement dans votre missel après le cinquième dimanche après Pâques. C'est habituellement là où elle est, comme c'est une messe qui est variable et qui n'est pas fixe, elle se trouve après les dimanches après Pâques. Donc c'est une grande grâce pour nous cette année de pouvoir nous pencher tous ensemble sur les textes de la messe des Rogations. Bien des messes rares, si l'on peut dire, c'est-à-dire des messes votives la plupart du temps, ou des messes qui tombent la plupart du temps en semaine, comportent des enseignements propres à fortifier la foi des fidèles. Et il se trouve que le malheur des temps, qui est multiple, le malheur des temps dû au manque de temps que les fidèles ont pendant la semaine, c'est-à-dire ils n'ont pas le temps de venir aux messes qui tombent en semaine la plupart du temps, c'est aussi le malheur des temps est dû aussi à la dispersion des fidèles qui appartiennent à des communautés mais qui vivent dispersées de par le monde. Ce n'est plus, nous n'avons plus le système paroissial tel que nous l'avions autrefois, c'est-à-dire l'Église qui était, on était capable d'aller à l'Église à pied, et tout se passait dans cette paroisse comme cela se passait dans le diocèse, comme cela se passait dans l'Église, c'est-à-dire que c'était des petits mondes à l'intérieur de mondes un peu plus grands et à l'intérieur d'un grand monde, de telle sorte que tous les fidèles puissent bénéficier d'un suivi. Le malheur des temps, mes très chers frères, nous le connaissons. Mais nous ne voulons pas nous en plaindre, parce que quand même, par un moyen ou pour un autre, par la grâce de Dieu, nous arrivons quand même à recevoir quelque chose de l'Église qui reste notre mère bienveillante et qui nous enseigne. Bien souvent, néanmoins, les prêtres sont découragés d'enseigner ces doctrines qui nous viennent des messes un peu plus rares, disions-nous. D'une part à cause du malheur des temps, je l'ai dit, mais aussi à cause de l'autodidactisme, c'est-à-dire que tout le monde s'enseigne soi-même, c'est-à-dire ne s'enseigne pas du tout. Tout le monde est enseigné par son prochain, dans le sens où chaque jour vous avez votre petit poste quotidien ou deux ou trois fois par jour, vous lisez un petit truc qui vous donne pas qui ne fortifie pas du tout votre foi, mais qui vous donne quelque chose à dire à quelqu'un qui ne le sait pas encore et qui, comme vous, n'est pas abonné à la même banque de données. Donc il se trouve, mes très chers frères, que tout ceci décourage les prêtres et il se trouve que plus personne n'est enseigné. Parce que quand bien même la vérité viendrait-elle à être dite par ceux qui n'ont pas pour mission de l'enseigner à leur prochain, officiellement, eh bien cette vérité aurait un impact nul dans leur vie. Et voyant tout cela, les prêtres sont découragés. Alors, mes très chers frères, je m'adresse tout d'abord aux prêtres et je dis, ne soyez pas, je leur dis, ne soyez pas découragés, mes frères, enseignez les fidèles qui doivent être enseignés et vous aurez fait votre devoir d'État. Ne vous découragez pas. Évidemment, pour enseigner des fidèles, il faut que tout le monde soit dans l'ordre. Ça, c'est une autre question. Il se trouve donc, mes très chers frères, que en ce jour de la messe du jour des Rogations, nous avons des choses magnifiques à voir avec l'aide du Saint-Esprit. Des choses tout à fait magnifiques, c'est-à-dire que dans cette messe des Rogations, qui revient en réalité 4 fois par an. Eh bien, dans cette messe des Rogations, il se trouve que l'Église nous apprend ce que nous devons demander à Dieu et comment nous devons le demander à Dieu. Alors vous allez dire, mais tout ça, on le sait. Le savons-nous. Nous le voyons souvent parce que c'est une chose importante. L'Église nous apprend tout le temps à demander à Dieu, mais en ce jour, elle nous délivre un enseignement complet. Alors, il faudra simplement le survoler parce que nous n'avons pas, malheureusement, autant de temps que nous le voudrions. Mais nous verrons plusieurs choses avec l'aide du Saint-Esprit. Tout d'abord, dans notre premier point, nous verrons que pour demander à Dieu, il faut se placer avant tout dans une position où l'on puisse être exaucé. Et nous verrons aussi en quoi elle consiste. Nous verrons ensuite ce que nous devons demander à Dieu dans cette position. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous verrons comment nous devons demander. Nous verrons aussi certains obstacles à l'exaucement et nous verrons, nous parlerons aussi un mot d'une chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui est fort, fort vrai, c'est-à-dire le devoir d'orienter sa volonté pour cette devoir d'orienter la volonté, devoir qui est nécessaire pour être exaucé. Nous verrons en quoi cela consiste. Et nous terminerons par un troisième point en voyant la manière de demander et nous verrons aussi deux aspects nécessaires de la persévérance. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Voyons tout d'abord l'oraison de cette messe. C'est une oraison fort simple, mais extrêmement intéressante, comme toutes les oraisons évidemment. Presta que sumus omnipotens Deus, faites au Dieu Tout-Puissant, ut qui in afflictione nostra de tua pietate confidimus, faites, Dieu Tout-Puissant, que nous qui, dans notre affliction, nous confions en vous, en votre bonté, contra omnia, adversa omnia, toi Saint-Père protectionné muniamur, contre toute adversité, nous soyons toujours munis de votre protection, par notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Cette oraison est très simple, très facile à comprendre, mais elle est bâtie d'une certaine manière qui nous délivre un enseignement, j'allais dire un enseignement complet, il y a encore d'autres choses qu'on trouve dans l'Épître et dans l'Évangile, bien entendu, mais un enseignement qui n'est pas peu pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire savoir comment demander à Dieu. Cette oraison s'adresse tout d'abord à Dieu Tout-Puissant. Nous passerons rapidement, Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire le Dieu qui peut tout, alors que nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien ne veut pas forcément dire, mes très chers frères, que nous sommes incapables physiquement de quoi que ce soit. Nous sommes incapables de quoi que ce soit pour notre salut. Bien sûr, il y a plein de gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont des parfaits mécréants, et qui sont capables, qui s'avèrent capables de beaucoup de choses. Personne ne le nie, personne ne le nie. Qu'ils soient capables de quelque chose pour leur salut, ça nous le nions. Nous nous adressons au Dieu Tout-Puissant, non pas parce que nous sommes des minables et que nous ne pouvons pas faire autrement, mais parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire pour notre salut. Sans lui, nous ne pouvons faire aucune action qui soit méritoire et a fortiori qui soit capable de nous orienter vers le ciel et a fortiori encore plus, si j'ose dire, de nous faire atteindre le ciel. Voilà pour Omnipotens Deus, le Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous toujours, mes très chers frères, si nous nous adressons dans une oraison au Dieu Tout-Puissant, c'est que nous allons lui demander quelque chose que nous sommes incapables de nous fournir à nous-mêmes par nos propres forces. Adam, d'une certaine manière, dans l'état d'innocence, aurait prié à peu près la même oraison. Il n'aurait pas mis sa confiance en lui-même dans les œuvres de la nature. Il savait qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, d'une grâce certes différente, proportionnée à sa nature, n'était pas la grâce du Christ, puisqu'il n'avait pas encore péché, mais d'une grâce sans laquelle il ne pouvait rien. Et c'est pour cela que Dieu l'a créé en état de grâce, en état d'innocence. Presta que sumus omnipotens Deus. S'il vous plaît, faites Dieu Tout-Puissant. Alors, voici ce qui nous intéresse. C'est que nous allons voir maintenant l'Église nous faire, nous placer dans une situation, dans la seule situation, à partir de laquelle nous puissions nous attendre à être exaucés. Écoutez bien ce qu'elle dit. Ut, donc tout de suite, faites que, ut, c'est que, hein, en français. Ut, qui in afflictione nostra de tua pietate confidimus. La traduction que j'ai sous les yeux, qui est bonne, mais n'est pas exactement aussi bonne qu'on voudrait. Faites, ô Dieu Tout-Puissant, que nous confiant en votre bonté au milieu de nos tribulations, nous soyons, etc. Elle est excellente, cette traduction, mais ça ne respecte pas exactement l'ordre dans l'original, des mots dans l'original. Ut, faites que, qui in afflictione nostra, nous qui, dans notre affliction, de tua pietate confidimus, nous qui, dans notre affliction, nous confions en votre bonté. Qu'est-ce que ça signifie? Nous qui, dans notre affliction, nous confions en notre bonté. Non pas nous qui, que vous voyez souffrant, nous faites, ô Dieu Tout-Puissant, que nous que vous voyez être accablés par toutes sortes de maux. Faites que nous qui, dans notre affliction, nous confions en votre bonté. Vous voyez, mes très chers frères, où nous voulons en venir? C'est-à-dire que nous ne faisons pas valoir à Dieu que nous sommes dans l'affliction, mais que dans l'affliction, nous nous confions en sa bonté. Nous ne sommes pas en train d'essayer d'apitoyer Dieu en disant, vous voyez Seigneur, je suis dans l'affliction, vous voyez que ceux qui sont dans l'affliction ont le droit d'être exaucés par vous. Non, hélas, hélas, non. Parce qu'on peut être dans l'affliction et ne pas être dans des dispositions, et j'en pleure presque en le disant, mais on peut être dans l'affliction et ne pas être dans les dispositions pour être exaucés par Dieu. Beaucoup de gens sont dans l'affliction, beaucoup de nos contemporains sont dans l'affliction. Est-ce qu'ils pensent à se confier dans la bonté de Dieu? Est-ce qu'ils se confient dans la bonté de Dieu? Non! Alors, mes très chers frères, il y a quelque chose de terrible, c'est qu'ils sont dans l'affliction et ils ne seront jamais exaucés par Dieu tant qu'ils ne se confient pas dans sa bonté, bien entendu. Mais, vous voyez, mes très chers frères, nous ne disons pas à Dieu, Seigneur, vous voyez que nous sommes dans l'affliction, donc faites que ceci et cela. Non! Seigneur, faites que nous qui sommes dans l'affliction et qui nous confions en vous, l'Église veut nous apprendre, mes très chers frères, alors que nous sommes dans le contexte d'érogation, donc de ce qu'on demande, rogare, ça signifie demander. Hein. Donc, il se trouve que, alors que l'Église est en train de nous faire célébrer un office de toute cette journée, nous avons eu la procession ce matin, pour demander quelque chose à Dieu, et pas des petites choses, on lui demande tout, et nous allons voir précisément en quoi ce tout consiste. Elle nous fait nous placer dans la situation de suppliants capable d'être exaucé. Il y a plein de gens qui sont dans l'affliction, mais il y a peu de gens qui sont capables de sortir de cette affliction. C'est à croire, mes très chers frères, en tout cas pour les chrétiens, qu'on aime l'affliction dans laquelle nous sommes, et qu'on en jouit d'une certaine manière, tant que, c'est cruel bien sûr, mais tant que nous ne nous confions pas positivement dans la bonté de Dieu. Tout le monde peut être dans l'affliction, c'est un fait de nature depuis la chute. Tout le monde peut être dans l'affliction, et malheureusement, la plupart de l'humanité est dans l'affliction. Mais ce n'est pas ça qui va apitoyer Dieu envers nous. Dieu nous exaucera dans la mesure où il verra que dans notre affliction, in afflictione nostra, de toi pietate confidimus, nous nous confions en sa bonté. Donc voyez, mes très chers frères, pour se confier dans la bonté de Dieu, il faut déjà avoir... Nous partons du postulat que nous sommes dans l'affliction. Pour se confier dans la bonté de Dieu, et pour, quoique dans l'affliction, se caractériser par le fait de se confier dans la bonté de Dieu, il faut avoir vaincu la première tentation qui se présente à l'esprit de celui qui est dans l'affliction. Et quelle est-elle, cette tentation? C'est la révolte. La révolte contre Dieu. Mes très chers frères, nous devons... Lorsque nous sommes dans l'affliction, et personne ne nous a jamais dit que quand nous serons chrétiens, nous ne serons plus jamais dans l'affliction. Je vous dirais même, et ça je m'adresse à ceux qui attendent encore le baptême, je dirais même, attendez-vous à être dans l'affliction comme vous ne l'avez jamais été jusqu'à présent. Attendez-vous à ce que le monde entier se réveille par rapport à vous et vous cherche à vous nuire. Pourquoi? Alors vous allez dire, attendez, taisez-vous, vous allez détourner les gens du salut, de l'Église. Non, mes très chers frères, je leur annonce la couleur. Vous pensez être dans la paix, mais vous êtes dans la paix parce que vous n'êtes pas, personne ne vous a libéré des chaînes de votre maître qui est le diable. Vous voulez vous soumettre dans la liberté à celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, vous allez voir que votre maître qui a usurpé sa puissance sur vous, va tout d'un coup vous repérer et va se mettre à courir après vous. Donc voyez mes très chers frères, personne n'a jamais dit que le baptême ou que la profession de la foi chrétienne nous délivrerait de nos afflictions. Mais en revanche, ce qui est promis à ceux qui embrassent la foi, c'est qu'ils pourront mettre leur confiance dans la bonté de Dieu et ils pourront être exaucés. Qui in afflictione nostra. Donc voyez mes très chers frères, la première tentation qui se présente à celui qui est dans l'affliction, c'est de se révolter contre Dieu. Alors évidemment, quand on est mal instruit de la vie chrétienne, quand on s'imagine que quand on va devenir chrétien, on va devenir un champion du monde et que tout le monde va se mettre à plat ventre devant nous et que nous allons avoir la victoire sur toute chose, matériellement parlant, etc., parce que spirituellement ça c'est le cas, eh bien évidemment, la première affliction, nous qui aurons cru du verbe croître très fortement, eh bien, la première affliction qui viendra, nous sécherons. Oh, que c'est curieux! Oui, mais la petite plante n'avait pas de racines. Pourquoi? Parce qu'elle était enracinée. Elle a poussé sur cette terre très fine qui recouvre simplement le roc très dur de la volonté propre et de l'amour propre. La première tentation qui se présente au chrétien lorsqu'il est dans l'affliction, c'est la révolte contre Dieu. Alors, j'ai dit que nous devons nous devons triompher de cette tentation. Comment triompher de cette tentation? Alors j'allais vous dire par les moyens ordinaires. Oui, mais appliquer à la révolte contre Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, avant de dire il faut faire ceci ou cela, disons plutôt en quoi consiste la révolte. Vous voyez, lorsque vous dites, vous allez chez le médecin, que vous lui dites docteur, je souffre de ceci, le docteur ne va pas vous faire taire en vous disant attendez, prenez ça, prenez ça, prenez ça. À moins que ce soit un mauvais docteur et un mauvais médecin. Il va vous dire, il va vous faire parler. Il va vous dire de quoi souffrez-vous exactement? Est-ce que vous avez tel symptôme? Et si je fais ceci, si je touche cela, est-ce que vous avez mal? Il va essayer de discerner en quoi consiste le mal. Donc, lorsque nous disons « ne nous révoltons pas contre Dieu », il nous faut maintenant ausculter ce mal et nous dire « pourquoi nous révoltons-nous contre Dieu ?» Eh bien, mes très chers frères, il y a plusieurs raisons, il y en a cinq, en tout cas j'en citerai cinq aujourd'hui, rapidement, il y a cinq raisons pour lesquelles nous nous révoltons contre Dieu. Premièrement, parce que nous manquons de foi. C'est un manque de foi qui nous fait nous révolter contre Dieu. Souvenez-vous que nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas ici, ça ne s'adresse pas, ce n'est pas le béaba de la foi pour arriver au désir du baptême. Nous enseignons les chrétiens. Pourquoi nous révoltons-nous contre Dieu? Parce que nous manquons de foi. Dieu est infiniment bon. L'acte de foi dit, je crois en, enfin, l'acte d'espérance nous dit que Dieu est infiniment bon, infiniment aimable, enfin, plusieurs actes en réalité. Mais nous disons dans la foi que Dieu, ce Dieu qui est infiniment bon, infiniment sage, infiniment parfait, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ce Dieu qui agit envers nous de telle sorte que nous soyons dans l'affliction, lorsque nous nous révoltons contre lui, nous manifestons un manque de foi par rapport à lui. Si nous avions la foi, mes très chers frères, nous aurions foi en ce Dieu infiniment bon, mais aussi infiniment sage. Notre Dieu n'est pas simplement un Dieu bon. Il y a des gens qui sont bons et qui ne peuvent rien pour leur prochain. Puis il y a des gens qui sont puissants, et il se trouve qu'ils sont bons et généreux par la même occasion, donc leur bonté n'est pas un vain mot. Si vous avez un clochard qui vous passez en pleurant dans la rue, vous avez un clochard, vous venez d'être ruiné, vous venez d'être dépouillé par un bandit, un clochard passe dans la rue et vous voit passer devant lui et vous dit « Ah, vous pleurez, écoutez, vous savez, on est tous dans le même bateau, allez, prenez courage. Cet homme est bon, mais qu'est-ce qu'il peut pour vous? Rien. Vous allez voir le roi, on vous a dépouillé, on vous a battu, on vous a laissé à demi-mort sur le bas-côté de la route. Vous allez voir le roi, vous dites, Seigneur, Majesté, on m'a dépouillé de tout. Et le roi est bon, il va vous dire, je vais vous faire restituer tout. Alors vous allez dire, oui, mais le clochard me disait la même chose. Oui, mais le roi est puissant. Contrairement au brave clochard, et c'est pas pour dire des choses contre les clochards, mais c'est pour dire, le brave clochard n'avait que sa bonté. Le roi a la bonté, Dieu merci, et il a la puissance. Se révolter contre Dieu, mes très chers frères, c'est manquer de foi dans ce Dieu qui est non seulement infiniment bon, mais infiniment puissant. Je dirais même infiniment sage, et nous y reviendrons. Se révolter, donc nous devons, pour triompher de la révolte contre Dieu, nous devons mettre en pratique la foi, la vertu de foi, nous devons avoir foi en Dieu, nous devons pratiquer la foi en Dieu. Il y a une autre raison pour laquelle nous nous révoltons contre Dieu, c'est parce que nous manquons d'espérance. Lorsque nous chantons dans la liturgie, quos redemisti tu conserva Christe, ce que vous avez racheté, conservez-les vous-même au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, mes très chers frères, nous manifestons que nous avons l'espérance, non seulement que Dieu a commencé en nous la bonne œuvre, mais qu'il amènera aussi au jour, à sa perfection, pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se trouve donc, mes très chers frères, que Dieu n'a pas commencé une tâche en nous pour l'abandonner gratuitement. Dieu a commencé une tâche en nous pour la commencer, pour la continuer et pour la perfectionner parce qu'il a en vue non pas notre but, notre bonheur, etc., mais il a en vue la gloire et la glorification de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voyez, mes très chers frères, lorsque nous nous révoltons contre Dieu, eh bien, il se trouve que nous manquons d'espérance. Nous manquons d'espérance, et cette espérance, ce n'est pas l'espérance que Dieu nous fera du bien à la fin, à un moment donné, mais c'est que Dieu glorifiera son Fils en nous. Vous allez dire, oui, mais il glorifie son Fils, et moi, et moi, et moi. Oui, justement, il glorifiera son Fils dont nous sommes membres. Il glorifiera son Fils dont nous sommes, par le baptême, intrinsèquement membres, intrinsèquement les membres, et que nous savons être aimés par Dieu, que nous savons et que nous sommes aimés par Dieu comme il aime son propre Fils. Nous manquons donc d'espérance lorsque nous nous révoltons contre Dieu. Si nous devons triompher de la tentation de la révolte contre Dieu lorsque nous sommes dans l'affliction, nous devons donc avoir la vertu d'espérance, mes très chers frères. Puis vous l'avez deviné, le troisième point, c'est que la troisième cause de révolte contre Dieu, c'est que nous manquons de charité, évidemment. Mais spécialement la charité envers Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et comment est-ce que nous manquons d'amour envers Dieu? C'est que nous sommes ingrats pour tous les bienfaits passés de Dieu. Comment? C'est pas la première fois que vous êtes dans l'affliction. Non, c'est vrai. Je pense qu'il n'y a personne qui puisse dire « c'est la première fois de ma vie que je suis dans l'affliction ». Donc, vous avez déjà été dans l'affliction, oui, mais vous êtes toujours chrétien. Ben oui, c'est vrai, mais je suis un chrétien affligé aujourd'hui. Mais regardez, toutes les fois que vous avez été affligé, il se trouve que Dieu est venu à votre secours. Ben oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, il me semble que... Attendez, avant d'aller trop vite, vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat et c'est pour ça que vous vous révoltez contre Dieu. Et probablement que si vous vous révoltez contre Dieu, c'est que vous avez mal usé des grâces qu'il vous avait données dans vos précédentes afflictions. Réfléchissez bien et vous verrez que cela est vrai. Nous manquons de charité envers Dieu, nous sommes ingrats envers Dieu et c'est pour cela que nous sommes révoltés contre lui. Bien souvent, lorsque nous nous habituons aux bienfaits de Dieu, eh bien, nous les prenons pour comme s'ils allaient de soi, et il se trouve que nous habituons aussi, il nous semble que d'une certaine manière, nous les avons reçus parce que nous le valions bien. Et de telle sorte que, apparemment, si Dieu s'oppose à notre volonté propre, il se trouve que nous nous révoltons contre lui. Quelle ingratitude, mes très chers frères, quelle ingratitude. Mais il y a encore deux autres raisons pour lesquelles nous sommes tentés par la révolte contre Dieu. Le quatrième point, c'est que nous sommes orgueilleux. C'est que nous nous croyons plus sages que Dieu. C'est que nous croyons mieux savoir que lui le temps opportun où nous avons besoin d'être exaucés. Ça rejoint un petit peu ce que nous avons dit en premier point. Mais là, nous sommes orgueilleux. C'est-à-dire que nous croyons que Dieu est un Dieu infiniment sage, puisqu'il a tout créé, il est l'ordonnateur de tout, etc. C'est vrai. Mais nous nous révoltons contre lui parce que, sous un certain rapport, c'est un idiot. Sous un certain rapport, il ne sait pas ce qu'il fait. Sous un certain rapport, c'est un paresseux et un feignant qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Vous voyez, nous donnons à Dieu des leçons sur le devoir d'État. Quand on est Dieu, on doit savoir. Quel orgueil insensé, mes très chers frères. Et souvent, nous sommes tentés par la révolte contre Dieu à cause tout simplement de notre orgueil. Ce qui nous amène au cinquième point, c'est que bien souvent, nous sommes tentés de nous révolter contre Dieu par un certain manque de bon sens, c'est-à-dire un manque d'humilité. Nous croyons que nous savons avec certitude ce dont nous avons besoin. Et il se trouve que nous manquons de bon sens, un peu comme les enfants, les petits-enfants, qui demandent des choses en trépignant à leurs parents, alors que les parents savent très bien, et de la façon la plus simple, la plus évidente, que cela est mauvais pour les enfants. Mais les enfants ne s'en rendent pas du tout compte. Pour l'enfant, dans un certain moment donné, il s'imagine que c'est ça que ses parents doivent lui donner. Il manque de bon sens. Il manque de bon sens, il est impatient, c'est vrai, mais aussi l'enfant n'a pas toute sa raison encore formée. Donc du coup, il ne comprend pas que telle ou telle chose qu'il demande n'est vraiment pas bonne pour lui, même si sous un certain rapport, sa raison déjà bien formée lui fait considérer la chose comme un bien. Vous voyez, il demande par exemple, prenons un exemple, un bonbon, mais on va manger. Donc si un bonbon c'est bon, c'est bien, etc., c'est du sucre, quand on est un peu fatigué, etc., bon, tout ce que vous voulez, la raison a raison sous un certain rapport, mais on va manger. Donc la maman qui refuse de donner le bonbon avant le repas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit en fonction d'une raison plus haute, plus grande. Oui, en soi le bonbon est bon, mais sur le moment il est mauvais puisqu'il va couper l'appétit, et il faut manger. Et il faut manger tout ce qu'on donne à manger, tout ce qu'on nous donnera à manger. Donc vous voyez, mes très chers, un certain manque de bon sens nous fait nous révolter contre Dieu. Nous nous révoltons contre Dieu pour toutes sortes de raisons, mais aussi parce que nous manquons de jugeote, en quelque sorte. Vous voyez, mes très chers frères, nous disons à Dieu « presta, presta ». Nous, donc, nous sommes dans une situation où l'Église nous fait mettre dans une situation où, ayant vaincu la tentation de la révolte contre Dieu, nous sommes mis dans une disposition où nous pouvons être exaucés parce que nous nous attendons à sa bonté. Nous nous confions dans sa bonté. Nous lui disons presta, c'est-à-dire faites, agissez librement selon votre sagesse, votre bonté et votre paternelle sollicitude. Vous voyez, tout est contenu dans ce petit mot, faites, impératif. Nous donnons un impératif à Dieu et nous lui disons que votre volonté soit faite et non la mienne. Parce que je m'attends à votre bonté et je me défie de ma raison, je me défie plutôt de ma petite idée, je me défie de mon orgueil, de mon manque de foi, manque d'espérance, manque de charité, de mon ingratitude. Faites, faites Seigneur, faites. Vous voyez, dans ce presta, il y a tout l'enseignement de Gethsémani. Non pas ma volonté, si cela se pouvait, parce que ma raison me dit que ceci, cela, mais non pas ma volonté, mais la vôtre. Presta, faites Seigneur, agissez librement selon votre sagesse, votre bonté, votre paternelle sollicitude, dans lesquelles je crois, j'espère et que j'aime. Dieu, adhérons à la volonté de Dieu, et c'est ainsi, mes très chers frères, que nous nous mettrons dans une situation où nous pourrons être exaucés. Quand bien même la volonté de Dieu contrarierait les aspirations les plus légitimes de la nature, encore une fois, je vous renvoie à Gethsémani, adhérons à la volonté de Dieu. Il me semble, Seigneur, que j'ai vraiment besoin de ceci, il me semble que ma nature l'exige, mais faites, faites librement comme vous l'entendez. Voilà, mes très chers frères, comment l'Église, dans quelle disposition l'Église veut nous trouver pour que nous puissions avoir l'assurance qu'elle nous donne d'être exaucés. Faites quoi donc? Eh bien, que contra adversa omnia, toi Saint-Père protectionné mon amour, que nous soyons toujours munis contre toute adversité, contre tout ce qui nous est contraire, contre tout ce qui s'oppose en réalité à la réalisation de notre salut. C'est ça ce qui nous est contraire. Lorsque quelque chose nous empêche de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, nous empêche de, si nous mourons en possédant cette chose, si elle nous empêche d'aller au ciel, alors ça, c'est quelque chose qui nous est contraire. Si nous avons une contrariété, cela n'est pas forcément quelque chose qui nous est contraire. C'est quelque chose dont nous avons besoin, au contraire. Je n'obtiens pas ceci ou cela, mais j'en ai besoin. Le petit enfant qui n'a pas reçu son bonbon avait besoin de cette non-réception, de telle sorte que lui donne sa maman lorsqu'elle lui refuse le bonbon? Eh bien, pour filer la comparaison, elle lui donne l'appétit. Elle lui donne l'appétit. Donc le petit enfant trépigne, il n'est pas content parce qu'il n'a pas reçu le bonbon, mais sa maman lui a donné quelque chose de beaucoup plus grand, elle lui a donné de l'appétit pour le repas qu'elle va lui donner. Vous voyez, pour les bonnes choses qu'elle a préparées pour lui afin qu'il grandisse. Un bonbon, ça peut l'aider, mais ça ne va pas le faire grandir. Un bon repas préparé par la maman, ça le fera grandir. En lui refusant, elle ne s'est pas opposée à lui, elle lui a donné ce dont il avait besoin. Tout ce qui s'oppose à nous, mes très chers frères, c'est ce qui s'oppose à notre salut éternel. Donc, contre tout ce qui s'oppose à notre salut éternel, vous voyez combien l'Église nous fait demander des choses qui sont susceptibles d'être exaucées par Dieu. Non pas tout ce qui s'oppose à notre volonté propre, parce que ça c'est plutôt Dieu, mais tout ce qui s'oppose à notre salut éternel, tout ce qui s'oppose de près ou de loin, directement ou indirectement, à notre salut éternel. Si Dieu s'obstine à refuser quelque chose que nous lui demandons, c'est que cela est mauvais pour nous. Contourner la volonté de Dieu, mes très chers frères, c'est se préparer des désagréments sans fin. Sans insulter au patriarche, regardez simplement Abraham. Quand il a légèrement manqué de foi, Dieu lui promettait un fils, il a, par une façon tout à fait légale, tout à fait licite, mais il s'est obtenu un fils, et ça a été Ismaël. Regardez, nous avons encore des problèmes avec cet Ismaël jusqu'à aujourd'hui, et même à nos portes, hein, sans vouloir chercher la bagarre. Donc vous voyez, bien sûr qu'il a fait quelque chose qui a été réparé par Dieu. Bien sûr qu'il y a plein d'Ismaélites qui viennent à la foi, etc. Deo gratias pour eux, et nous prions pour eux, bien entendu. Mais il se trouve que, vous voyez, mes très chers frères, Ismaël a persécuté Isaac. Isaac était le fils promis par Dieu à Abraham, et il se trouve que ce fils unique avait un grand frère qui le persécutait, de telle sorte qu'Abraham a dû le chasser avec sa mère. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous sommes libres, j'allais dire malheureusement, nous sommes libres. Il se trouve que si nous voulons ne pas faire la volonté de Dieu, ce n'est pas impossible techniquement. Et nous ne pouvons pas nous sauver en même temps. Nous ne pouvons pas en même temps vouloir être chrétien et vouloir accomplir notre volonté propre. Contourner la volonté de Dieu n'est pas techniquement impossible. Mais nous nous préparons des désagréments sans fin. Alors, comment demander maintenant? C'est notre deuxième point. Comment demander? Notre Seigneur nous délivre un enseignement tout à fait magnifique et lumineux dans l'Évangile. Si quelqu'un, dit-il, si quelqu'un de vous avait un ami et qu'il alla le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et que de l'intérieur, l'autre lui répondit « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée et mes enfants sont comme moi au lit. Je ne puis me lever pour t'en donner. » Si néanmoins le premier persiste à frapper, je vous le dis, quand même l'autre ne se lèverait pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, il se lèverait du moins à cause de son importunité et lui en donnera autant qu'il en faut. Mes très chers frères, comment devons-nous demander à Dieu? Eh bien, les auteurs, je n'oserais pas le dire moi-même, mais ce sont les auteurs qui le disent, les commentateurs. Ils nous disent, de cet évangile, il se trouve que, et cela n'exclut pas d'autres considérations, mais nous devons, comment devons-nous demander à Dieu? Nous devons demander à Dieu comme à un ami. Mais plus qu'à un ami, à un Père très aimant, à quelqu'un qui n'est pas simplement notre égal et qui nous veut du bien d'une façon générale et jusqu'à ce que nous lui cassions les pieds, c'est notre Père qui est toujours prêt à nous faire du bien. Nous devons lui demander donc avec confiance, avec une sainte hardiesse. C'est un Père plein de sollicitude qui sait ce dont nous avons besoin parce que notre Seigneur nous le dit dans un autre endroit. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin, gens de peu de foi. Il sait ce dont nous avons besoin. Nous devons lui demander comme un ami, comme à notre ami céleste. Nous devons avoir recours à Dieu comme à un ami. Ce doit être pour nous la source, nous dit un auteur, la source de cette confiance si nécessaire dans la prière. Ce qui doit être pour nous la source de la confiance si nécessaire dans la prière, c'est que nous prions un Dieu qui nous aime et qui a plus de désir de nous faire part de ses richesses que nous n'en avons de les recevoir. Comment devons-nous nous adresser à Dieu? Dans la position d'un suppliant qui sait qu'il ne peut rien pour lui-même, mais qui a triomphé des 5 causes de la révolte contre Dieu, et qui s'attend à Dieu en lui disant « Seigneur, faites !» Mais il s'adresse à lui avec une confiance d'ami. Il s'adresse à lui, nous nous adressons à lui comme à un Dieu qui nous aime et qui a plus de désir de nous faire part de ses richesses que nous n'en avons de les recevoir. Si Dieu n'était que quelqu'un de très riche, qui est un peu méprisé par ses ennemis et auquel il aurait envie de partager ses richesses à des amis qui seraient un petit peu négligents, évidemment Dieu serait un Dieu très riche, très bon, mais qui courrait après les gens. Dieu, si les auteurs nous disent avec insistance que nous devons nous adresser à lui comme à un ami, comme à un père très aimant, comme à un Dieu qui nous aime, c'est parce qu'il est terrible. C'est un Dieu terrible. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous approcher avec confiance de ce Père céleste? C'est que nous savons que par ailleurs c'est un feu dévorant, qui châtie les impies, qui est impitoyable envers le péché, qui est une sainteté infinie, qui ne tolère pas le péché. Nous savons que c'est un Dieu terrible, et c'est pour cela que les auteurs nous disent « N'ayez pas peur de vous approcher de lui, car par le baptême, vous avez été revêtus et vous avez reçu en réalité la dignité d'enfant de Dieu. » Ce Dieu terrible, qui normalement devrait vous faire courir à l'autre bout du monde pour le fuir, comme si c'était possible, ce Dieu terrible et terrifiant, dont l'éclat de la sainteté n'est autre que l'enfer en réalité, ce Dieu veut être abordé comme un ami, comme un père très aimant. Voilà pourquoi, mes très chers frères, l'Église nous met dans une situation très particulière où nous nous abandonnons à la volonté de ce Dieu très saint et très sage afin de pouvoir l'aborder comme un ami, comme un père très aimant. Elle ne nous dit pas « Allez au bon Dieu, il est tellement bon, il dit jamais non, il est incapable de dire non, puis en plus il a plein de richesses. » Non, elle nous dit « Dieu est infiniment saint ». Et les chérubins et les séraphins poussent ce cri incessamment devant Dieu, « Saint, 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 Dominus Deus Sabaoth, le Dieu terrible des armées et 3 fois saint ». Et l'Église, lorsqu'elle nous voit dans des dispositions de terreur devant ce Dieu, elle nous dit « N'ayez pas peur, approchez-vous de lui ». Approchons-nous de Dieu, mes très chers frères, sans jamais le mépriser. Approchons-nous de Dieu avec une confiance en proportion de la terreur qu'il doit nous inspirer. Et c'est ainsi que nous nous approcherons dans les bonnes dispositions de Dieu. Approchons-nous de Dieu, non pas comme des orgueilleux, comme des ingrats, mais comme des enfants, par la grâce de Dieu, d'un Père infiniment saint, infiniment terrible, mais infiniment bon. Il est aussi bon qu'il est terrible, mes très chers frères. Lorsque nous nous heurtons à un rebut de la part de Dieu, nous ne savons pas si c'est définitif ou si ce n'est pas définitif. Eh bien, mes très chers frères, l'injustice, l'impatience montre que nous sommes orgueilleux. Si nous trépignons, si un petit enfant demande quelque chose de façon illégitime, il a beau le demander très gentiment, on ne lui donnera pas. Mais s'il demande quelque chose de légitime et qu'il le demande en trépignant, nous ne lui donnerons pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas comme cela qu'on le demande. C'est pour cela que les parents disent « demande poliment, demande gentiment, demande en disant « s'il te plaît ». Sinon, je ne donne pas, parce que ce n'est pas la bonne façon. Et on va dire au père ou à la mère, mais vous, en fait, vous dites ça parce que vous n'avez pas envie de donner. Mais si j'ai envie de donner, j'ai beaucoup plus envie de donner que cet enfant n'a de recevoir. Parce que ça fait beaucoup plus plaisir à un père ou à une mère de donner à son enfant qu'à un enfant de recevoir. La même chose pour Dieu. La seule chose, nous ne devons pas trépigner lorsque nous demandons à Dieu. Nous devons conserver, et cela peut aussi nous aider pour vaincre l'impatience et l'orgueil, conserver la terreur que nous avons de nous approcher de ce Dieu infiniment saint, infiniment bon, que nous avons offensé d'une façon presque infinie, d'un nombre presque infini de fois. Donc faisons très attention, nous marchons sur des œufs, nous marchons sur des charbons ardents, et le miracle, c'est qu'il ne se casse pas et qu'il ne nous brûle pas. Si quelqu'un de vous a un ami, nous avons un ami, et c'est Dieu qui est notre Dieu. L'impatience nous montre donc orgueilleux, et il se trouve que si nous sommes impatients, c'est que nous estimons, nous disent les auteurs, mériter ce que Dieu nous refuse longtemps, ou que nous croyons en être dignes. Alors vous allez dire, oui, mais en fait l'Église veut que nous nous rendions dignes d'être exaucés, et en même temps nous ne devons pas nous prendre dignes. C'est une chose que d'être digne, et c'est une chose que de s'imaginer être digne. Lorsqu'on s'approche d'un roi avec tout le respect que l'on doit au roi et qu'on lui demande quelque chose dont nous avons besoin d'une façon qui est respectueuse et confiante, on est digne d'être exaucé parce que c'est comme ça qu'on aborde un roi. Mais si on vient et qu'on dit « voilà, je viens d'acheter 3 ou 4 diplômes dans une officine d'un noblissement par correspondance, il se trouve que voilà, majesté, j'ai ces diplômes, je suis digne, j'ai la liste. » Il suffit d'un simple coup d'œil pour voir que vous n'êtes pas digne. Mais je suis digne parce que j'ai les diplômes. Vous n'êtes pas digne, justement parce que vous vous croyez digne. Celui qui est digne d'être exaucé, il ne se croit pas digne, il l'est. Et comme il n'a pas de retour sur soi, il sera exaucé. Attention, mes très chers frères, attention à cet orgueil secret qui, en plus des autres péchés, nous fait nous imaginer que nous pouvons nous présenter devant Dieu comme si nous étions dignes d'être exaucés. Le Seigneur a en abomination, dit l'Écriture, le pauvre qui est superbe dans sa pauvreté. Je suis pauvre, je suis infiniment débiteur de Dieu, et je me présente à lui en trépignant, avec le menton levé, en lui disant « Seigneur, donnez-moi, je sais que j'en ai besoin ». Le Seigneur a en abomination cette attitude. Pourquoi se mettre dans une attitude d'abomination, qui est en abomination à Dieu, alors que nous pouvons, si je puis dire, pour le même effort, avec l'aide de Dieu, mais nous mettre dans une attitude qui est digne d'être exaucée. Mes très chers frères, c'est que nous sommes nos pires ennemis, et que s'il y a bien quelqu'un au monde qui ne veut pas, à part le diable, mais qui ne veut pas être exaucé par Dieu, c'est bien nous-mêmes. Nous ne voulons pas être exaucés par Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Église nous apprend à nous adresser à Dieu en disant « Fiat voluntas tua ». Que votre volonté soit faite, et non pas la mienne, que j'adhère à votre volonté, écartez tout ce qui s'oppose à mon salut. Bien sûr, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Nous nous adressons à Dieu à minuit, alors qu'un ami vient d'arriver chez nous. Notre Père Saint-Augustin nous dit qu'à minuit représente ici le fait que le monde est dans une profonde ignorance. Et le fait que notre ami est au lit et que ses enfants sont couchés dans leur lit et que lui est aussi dans son lit, le même Père nous dit que nous nous adressons à Dieu alors que les temps apostoliques se sont terminés, que les grands saints sont morts, il ne reste plus personne pour nous conduire, il ne reste plus personne pour nous nourrir. À plus forte raison aujourd'hui, dans la situation catastrophique dans laquelle l'Église est, où il ne reste plus que les évêques, il n'y a plus de pape. Il se trouve que nous crions à Dieu à minuit, c'est-à-dire dans le pire moment de la journée, et il se trouve que par un certain côté, il est déjà couché et ses enfants sont déjà au lit dans la maison et la porte est fermée. Alors, il ne faut pas prendre cela pour nous inciter au désespoir. Mais nous devons comprendre que nous sommes dans une situation où nous devons plus que jamais être attentifs à la façon dont l'Église a de nous enseigner sur la façon de demander, afin que nous puissions être exaucés. Les apôtres et les saints sont morts, il ne nous reste plus personne. C'est pour cela que l'Église nous enseigne à orienter notre volonté. Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez dire, ça fait un peu bizarre cette façon de parler. Il faut bien s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Nous devons orienter notre volonté. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, notre prière doit être orientée par le désir de notre salut. Nous pouvons demander des choses, des biens temporels, mais nous devons jamais perdre de vue la fin surnaturelle. Nous pouvons demander notre pain quotidien, nous pouvons demander la sécurité, nous pouvons demander un toit, nous pouvons demander une épouse, des enfants, etc. Nous pouvons demander ces choses-là, qui sont des choses intermédiaires, qui sont des choses médiates. Mais nous devons toujours tout demander en disant « si cela sert à mon salut ». Alors vous allez dire « oui, mais je suis un père de famille, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de pain, je ne vais pas dire à toi à chaque fois si cela sert à mon salut ». Dites « puisque cela sert à mon salut, puisque vous êtes absolument certain que cela fait partie de votre devoir d'État de pourvoir à vos enfants le toit, le gîte, le couvert, etc. » Bien sûr, donc dites, puisque vous en êtes certain, « puisque ça sert à mon salut, puisque je ne peux pas me sanctifier autrement. » Vous voyez, maintenant, si vous êtes un jeune homme célibataire, vous ne savez pas exactement encore quelle est votre destinée, si vous dites « donnez-moi une femme, voilà, elle veut ceci, cela, et cela, regardez, j'ai fait la liste, j'ai fait de tout ce que je veux. » Est-ce que c'est la bonne façon de vous adresser à Dieu? Déjà, vous êtes bien impérieux, et ensuite, vous ne savez même pas si votre salut est conditionné au mariage ou pas. Et peut-être que vous allez vous damner si vous vous mariez. Et peut-être que si vous entrez dans la vie religieuse, vous allez vous sauver, alors que vous, aussi infailliblement que vous seriez damné si vous étiez marié. Personne ne le sait. Alors, ce qu'il faut, c'est demander ce qui nous semble raisonnable, en disant, Seigneur, si cela doit servir à mon salut, donnez-le-moi, obtenez-le-moi, accordez-le-moi. Vous voyez, nous devons orienter notre pensée, notre désir, notre prière, par le désir de notre salut. Si cela peut contribuer à ma sanctification et à mon salut, accordez-le-moi, Seigneur, sinon, ne me l'accordez jamais, et ne permettez pas que j'arrive à l'obtenir malgré vous. Un ami vient d'arriver, nous dit l'homme de la parabole. Un ami vient d'arriver, c'est-à-dire un auteur nous dit, cet ami, c'est notre âme. Et dès qu'elle vient d'arriver, elle est en voyage, dès qu'elle est unie à notre corps, lorsque le corps est assez grand pour recevoir l'âme, Dieu lui infuse l'âme, et il se trouve qu'à partir de ce moment, l'âme est une âme en voyage qui est dans le pèlerinage pour aller au ciel. Dieu crée l'âme, il la donne, et elle est en voyage. C'est pour mon âme que je vous demande. Je vous demande trois pains. Alors, nous n'approfondirons pas le symbolisme des trois pains ici, qui est très intéressant chez notre Père et chez Saint Bernard, mais il faut abréger. Mais il se trouve que le pain ici, c'est ce dont nous avons besoin. C'est le pain suressentiel dont notre âme a besoin. J'ai besoin de quelque chose. Je ne vous le demande pas simplement pour moi, pour ma volonté propre. Je vous la demande pour mon âme. Si cela doit servir à mon salut éternel, accordez-la-moi cette chose, Seigneur. Et j'ajoute, si jamais cela ne doit pas servir à mon salut éternel, ne me l'accordez jamais, et ôtez-moi même le désir de l'obtenir. Est-ce que nous demandons, mes très chers frères, à Dieu de nous enlever un désir qui nous fait prier une prière vaine? Eh bien, il faut y penser. Parmi nos prières, nous pouvons dire, Seigneur, vous voyez tous ces désirs qui s'entrechoquent dans mon cœur, ôtez-les-moi. Vous allez dire, est-ce que c'est pas être dangereux, c'est pas une prière dangereuse, est-ce que de demander des pareilles choses à Dieu? Dieu est notre Créateur, il est notre Rédempteur, il sait ce qui est bon pour nous. Tout ce qui est bon, il nous le donnera. Tout ce qui est mauvais, nous le conserverions. Seigneur, ôtez-moi tout désir qui ne va pas dans votre volonté. Et il ne s'agit pas maintenant de dire ôtez-moi tel ou tel désir, peut-être que ce désir vient de Dieu. Ôtez-moi tout désir qui ne vient pas de votre volonté. Faites disparaître en moi, faites s'évanouir de mon esprit toutes ces choses qui ne correspondent pas à votre volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais la vôtre, et la vôtre positivement. L'âme, c'est cet ami dont nous devons, qui est très cher, pour la sustentation de laquelle nous devons aller tambouriner à minuit à la porte du Père Céleste, à la porte des saints, à la porte des patriarches qui sont au ciel, qui sont avec Dieu au ciel. Nous devons tambouriner à cette porte sans nous lasser. Et c'est pour cela que nous arrivons à notre troisième point et dernier, qui est la manière de demander. Je vous le dis, dit notre Seigneur, quand même l'autre ne se lèverait pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, il se lèvera du moins à cause de son importunité et lui en donnera autant qu'il lui en faut. Donc, dans les relations temporelles, dans les relations terrestres, votre ami, à certains moments, l'ami peut casser les pieds. Mais des fois, lorsque l'ami est tellement important, que c'est à cause de son importunité et non pas de son amitié. Il n'en va pas de même pour Dieu, bien entendu. Mais, comme dit notre Seigneur, si l'homme qui est méchant est capable de donner des choses bonnes à son enfant, a fortiori, Dieu qui est bon, donnera-t-il le bon esprit à celui qui le lui demande ? La persévérance dans la prière obtient tout. Ça, c'est une maxime que l'on trouve chez tous les auteurs spirituels. La persévérance dans la prière obtient tout. L'importunité et la violence que l'on fait à Dieu dans la prière, nous dit un auteur, lui sont agréables. Ou plutôt, on lui est opportun et on ne use de violence envers lui que lorsque l'on le force à refuser en se rendant indigne de recevoir. C'est-à-dire que si vous tambourinez à la porte de Dieu, si vous faites un vacarme terrifiant pendant très longtemps à la porte de Dieu en lui disant « Seigneur, donnez-moi ce dont mon âme a besoin », d'une certaine manière, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous vous en emparez avec violence, mais ce n'est pas une vraie violence. C'est comme ça que Dieu veut être abordé. Tandis que si, par notre demande velléitaire, par notre mollesse, par notre indigence, par notre indifférence, etc., nous mettons Dieu dans la situation de devoir ne pas nous accorder des choses bonnes et nécessaires à cause de notre méchanceté, ça c'est lui faire vraiment violence, une violence qu'il ne supporte pas. Alors souvent on pose la question, pourquoi est-ce que Dieu ne serait-il pas un petit peu méchant ou taquin, si l'on peut dire dans le mauvais sens du terme, pourquoi est-ce qu'il nous laisse tambouriner à sa porte? Mais mes très chers frères, la question est mal posée. Nous venons de vous dire que Dieu est plus désireux de nous donner que nous ne sommes désireux d'obtenir de lui. Dieu est un pédagogue, c'est le pédagogue par excellence. S'il y a des gens qui sont dans une situation où ils doivent exercer la pédagogie vis-à-vis de leurs prochains, il faut qu'ils imitent Dieu. Et ainsi, ils agiront d'une façon divine. Je parle aux chrétiens, bien entendu, les autres n'existent pas. Il se trouve, mes très chers frères, que Dieu veut nous donner. Mais c'est le défaut vient de nous. Pourtant, vous allez dire, oui, mais je demande, Dieu sait si j'ai... Vous demandez sans doute et vous n'obtenez pas, Saint Jacques nous le dira, parce que vous demandez pour satisfaire votre concupiscence. Et c'est pour ça que vous n'obtenez rien de Dieu. Je demande, ça fait des années que je demande, je n'obtiens rien. Souvent on voit, permettez-moi un exemple qui est assez courant, on voit des gens, des bons hommes, des hommes qui veulent se marier. Alors ils prient, ils font des neuvaines, ils font des pèlerinages, etc. Bon, ils prient et puis ils disent à Dieu ou à leur confesseur, ce n'est pas mon cas, mais donc c'est une des histoires que je rencontre, qui n'est pas une histoire vraie que je raconte, il se trouve qu'il dit, je n'arrive pas à me marier, Dieu ne m'exauce pas, je ne comprends pas. Oui, mais regardez-vous vivre, vous êtes un vieux garçon très désagréable, vous êtes imbu de vous-même, vous êtes bourru comme c'est pas possible, vous êtes égoïste, vous ne vous en rendez pas compte, vous ne faites pas envie à la femme la plus généreuse, la plus dévouée, la plus soumise à son mari dans le possible, vous la dégoûtez. Est-ce que vous voulez vraiment être exaucé? Alors rendez-vous être exaucable par Dieu. Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres, souvent, vous savez, ce genre de personne qui dit « je ne comprends pas, pourtant je prie ». Priez et faites en sorte d'être assez agréable pour qu'on puisse répondre favorablement à votre demande en mariage. Regardez-vous un petit peu. C'est la même chose pour Dieu. Ce n'est pas tellement qu'il n'y a pas un Dieu qui veut nous exaucer, mais c'est qu'il y a des chrétiens très mous, très velléitaires, et surtout qui demandent n'importe quoi, n'importe comment. Donc Dieu veut que nous tambourinions à sa porte, parce qu'il sait qu'à moins de nous laisser tambouriner à la porte, nous allons nous répandre dans une multitude de demandes qui, si elles étaient exaucées, seraient démultipliées et feraient de nous des enfants pourris gâtés. C'est-à-dire que si nous nous adressions à Dieu et qu'à chaque fois il nous disait oui, nous lui demanderions des choses de plus en plus stupides. Vous voyez, quand un enfant a un père qui a le malheur d'avoir un père qui est très, extrêmement riche, et un père qui lui donne tout ce qu'il veut, c'est, mettons pas dans des chrétiens, mais disons dans le monde, Il lui demande, ah, papa, j'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien une motocyclette. Eh bien, tiens, je te donne même une moto. Ah bon, tiens, ben, c'est si facile. Ben, et si je demandais ceci, je demandais un appartement, je demande un compte en banque rempli, je demande toutes sortes de choses. Oui, chaque fois c'est accordé. Est-ce que vous croyez que cet enfant, qui aura tout obtenu de son père comme cela, va devenir un homme extrêmement propre, extrêmement honnête, il va mettre son argent à la banque, il va faire des bons investissements? Pas du tout, il va dire, de toute façon, mon père il me donne tout ce que je demande, j'ai qu'à demander. Et qu'est-ce qu'il va? Il va mourir probablement alcoolique, drogué, ou peut-être il va mourir d'une sorte de maladie honteuse, ou alors il va finir par être écrasé, il va se tuer en moto, justement avec la fameuse moto. Mes très chers frères, c'est en refusant que Dieu... en nous refusant que Dieu nous fait nous concentrer sur les choses qui valent vraiment la peine d'être demandées. Si Dieu nous dit non à la plupart, nous répond non à la plupart des choses que nous lui demandons, c'est parce que ces choses sont mauvaises pour nous. Et si Dieu voit que, sous l'influence de sa grâce, nous lui demandons des choses bonnes, il veut que nous les désirions véritablement. Seigneur, donnez-moi la patience. Donnez-moi, Seigneur, l'esprit de douceur. Donnez-le-moi, je vais faire une neuvaine à tel saint, etc., ou pour obtenir la vertu de patience, de douceur. Résultat, la neuvaine se termine, je suis toujours aussi impatient, toujours aussi colérique. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, je me suis aperçu que mon prochain, etc., m'a embêté pendant cette neuvaine, j'ai piqué des crises de nerfs, j'ai été impatient, j'ai été en colère, etc., et il se trouve que le bon Dieu ne m'a pas exaucé. Comment? Mais Dieu a été pendant toute cette neuvaine en train d'essayer de, si j'ose dire, de vous exaucer. Et vous ne l'avez pas vu. Vous lui demandiez la patience, il a mis votre douceur à l'épreuve. Il vous lui demandiez la paix, la douceur, la paix, la vertu irénique. Il a fait que vos amis et vos plus intimes vous ont provoqué à la colère. Vous n'avez pas vu que si vous aviez fait les efforts pour, avec l'aide de sa grâce, à surmonter ces tentations et en triompher, à la fin de la neuvaine, vous auriez fait de grands progrès dans la douceur, dans la patience, dans la maîtrise de vous-même. Nous demandons à Dieu, mais nous ne savons même pas reconnaître quand il nous donne, quand il nous exauce. Et bien souvent, nous n'avons que des paroles d'ingratitude dans notre bouche, alors que notre prochain voit que Dieu est déjà en train de nous exaucer. Je dis notre prochain, évidemment, parce que nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que Dieu est cruel, parce que Dieu joue au chat et la souris, que Dieu est une sorte de sadique, pas du tout. Dieu veut que nous nous concentrions sur ce que nous lui demandons. Si un petit enfant demande quelque chose, et qu'il le demande du bout des lèvres, et que cette chose est une chose quand même assez importante, et que les parents lui donnent, il va s'en désintéresser. Mais si c'est une chose importante, et que les parents disent « non, pas maintenant », etc., cet enfant va concentrer son désir, mettons que ce soit une chose légitime, et il aura un tel désir d'obtenir cette chose, que quand il va recevoir cette chose, il va la garder et en jouir pendant très longtemps, parce qu'il l'aura demandé longtemps. Donnez-moi, Seigneur, telle ou telle chose. Donnez-moi, je ne sais pas moi, un véhicule. Je n'ai pas de véhicule. Donnez-moi un véhicule. C'est une demande qu'on peut faire. C'est un peu terre à terre dans un sermon, mais dans une vie, c'est très, très, très utile. Donc, donnez-moi un véhicule. Donnez-le-moi, Seigneur, s'il vous plaît. Vous voyez que je n'ai pas l'argent. Je ne veux pas faire d'emprunt pour ne pas être esclave des banques, etc. Que faire? Lorsque on nous en donnera un, lorsqu'on en trouvera un d'occasion, pas cher et de très bonne qualité, mais nous serons infiniment reconnaissants, et chaque fois que nous entrerons dans ce véhicule, nous dirons « Seigneur, mon Dieu, merci de me l'avoir donné, merci, merci, mon Dieu ». Voyez ? Mais si nous l'obtenons facilement, tout ce que nous allons arriver à faire, c'est avoir un accident et à dire « Oh, mon Dieu, je vous demande des trucs, et puis elles s'abîment, elles sont de mauvaise qualité, etc. » Voyez ? Ce n'est pas à cause de lui que Dieu veut nous laisser tambouriner à la porte. C'est à cause de nous, c'est à cause de, non pas à cause de sa dureté et de sa méchanceté, mais c'est à cause de notre dureté, de notre négligence et de notre méchanceté, mes très chers frères, que Dieu est forcé de différer l'exaucement. C'est pour cela qu'il faut persévérer. Il lui donnera moins à cause de que c'est son ami que par l'importunité. Et Saint Jacques, dans cette épître que nous n'avons pas eu le temps de commenter, mais qui est absolument stupéfiante quand on la lit sérieusement, il dit « la prière persévérante du juste peut beaucoup. Multum enim valet, deprecatio justi assidua. » Elle vaut beaucoup. La prière du juste, la prière assidue du juste. Vous voyez, la nécessité d'être dans l'état de justice, si nous voulons vraiment obtenir, si nous faisons n'importe quoi et que nous demandons, nous aurons un double refus, à moins que Dieu ne nous aime pas. Mais vous voyez, nous devons être dans l'état de justice et avoir une prière, des précations assidues. Nous devons persévérer. Mes très chers frères, persévérer, premièrement, par la confiance en un Dieu infiniment bon, infiniment aimable, qui sait ce dont nous avons besoin et qui ne nous le refusera jamais, mais qui nous l'obtiendra dans son temps, qui nous l'accordera dans son temps, en son temps. Et persévérer comment? Deuxièmement, par la concentration. Ça rejoint ce que nous disions sur l'orientation de la volonté et de la prière. Nous devons persévérer par la concentration. Qu'est-ce que ça veut dire la concentration? Confiance, concentration, si vous voulez un moyen mnémotechnique, confiance, concentration pour persévérer. Confiance en Dieu, concentration sur ce que l'on demande. Écoutez ce que dit notre Père Saint Augustin, il y a une longue citation, mais je vous l'abrège. Quel est l'homme, mes frères, dit-il, qui peut souffrir que son ami, ayant commencé à lui parler, cesse de le faire et se détourne pour s'entretenir avec un autre? Combien de fois, mes très chers frères, commençons-nous à demander quelque chose à Dieu, et puis nous divaguons, et puis nous pensons à autre chose, et puis nous oublions, et puis nous nous laissons aller à des distractions. Dieu est vivant, enfin je ne sais pas, enfin on est à la fin de ce sermon, et j'ai oublié de le dire, mais Dieu est quand même vivant, j'espère que nous en sommes tous conscients. Oui, oui, amen, amen, bon, d'accord. Dieu est vivant. Donc, lorsque Dieu nous lui parlons, il nous écoute. Oui, oui, c'est vrai, amen. Lorsque nous cessons soudainement de lui parler pour divaguer, il est toujours là, il est toujours vivant, il nous écoute toujours. Est-ce que c'est vrai? Ah ben oui, j'y avais pas pensé. Mais Dieu, ce n'est pas une idéologie sur laquelle il faut, ce n'est pas un bouton, ce n'est pas un distributeur comme on trouve dans les gares, hein, vous mettez une pièce et puis il y a un truc qui tombe. Et puis si vous parlez à votre ami tout en faisant la manipulation, le distributeur, il ne va pas être vexé. Je ne dis pas que Dieu sera vexé, mais est-ce que c'est une façon de s'adresser? Est-ce que vous vous adresseriez à un juge, à un roi, à votre ami, à votre épouse, je ne sais pas moi, même à vous-même? Quel est l'homme qui peut souffrir que son ami, ayant commencé à lui parler, cesse de le faire et se détourne pour s'entretenir avec un autre? Je prie, Seigneur, obtenez-moi ceci, Seigneur, obtenez telle grâce à telle personne, etc. Et puis tout d'un coup, je pense tout à fait à autre chose. Et Dieu, alors? Est-ce que vous croyez que Dieu va vous exaucer? Il va dire, ben, j'ai quand même prié longtemps, après, bon, c'est vrai que j'ai cédé aux distractions. Mais si vous dites, je prie pendant une heure, il faut être concentré pendant une heure. Si vous avez des distractions sur les 5 dernières minutes, eh bien, il se trouve que Dieu est en quelque sorte bafoué pendant les 5 dernières minutes de votre prière. Alors vous allez dire, oui, mais c'est Dieu, Dieu ne s'arrête pas à si peu, etc. C'est vrai que, sous un certain rapport, si vous avez lutté contre les distractions, c'est vrai que si vous êtes un peu tombé, puis que vous êtes vite revenu aussitôt que vous vous êtes aperçu, Dieu est généreux, Dieu n'est pas un homme, heureusement. Mais si, volontairement, vous vous êtes dit, bon, ben, c'est long, etc., bon, ben, voilà, et puis j'ai des distractions, comme dans un chapelet, la dernière dizaine est très mal dite, souvent, parce qu'on pense à autre chose, parce que c'est long, on se barbe, etc. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir être exaucé? Vous allez dire, Dieu est si bon et si bon. Dieu est bon, mais il est infiniment saint aussi. Et puis c'est notre Père, et puis c'est un Dieu terrible. C'est le Dominus Sabaoth autour duquel les séraphins crient sans cesse, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Ils crient Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Et puis à côté d'eux, il y a un être qui divague et qui s'adresse à Dieu comme si c'était son Père très aimant et une sorte de papa gâteau qui dit jamais non. Vous voyez, mes très chers frères, nous pouvons tout obtenir de Dieu, moyennant que nous soyons dans les dispositions jusqu'à la fin. Confiance, certes, mais concentration. Vous voyez, nous devons nous concentrer. Sinon, nous ressemblons à quelqu'un qui va devant le juge, fait tout son plaidoyer, et puis au moment de conclure, au moment où il commence à parler d'autre chose, il se met à bâiller, il se met à roter, etc. Et puis il dit, oh, je sais pas trop, ce que, bon, ben voilà, je vous ai compris grosso modo. J'ai peut-être compris, mais je comprends aussi que vous êtes un imbécile qui tenait pas à remporter votre procès. Comment oui, mais ça fait 55 minutes, j'avais une heure pour parler, ça fait 55 minutes, je pense que vous avez compris à la fin. Oui, mais il fallait tenir l'heure. On ne peut pas. Alors vous avez dit, oui, mais ça c'est pour les hommes, c'est pas pour Dieu. Je vais vous dire, a fortiori pour Dieu, parce que l'homme peut se dire, bon, ben écoutez, monsieur, je vois que vous n'êtes pas sérieux, mais Dieu, lorsqu'il dit, ben écoute, mon petit bonhomme, je vois que tu n'es pas sérieux, c'est terrifiant. Alors vous allez dire, oui, mais j'ai un esprit qui divague, etc. Alors lutter contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de distraction, je dis qu'il ne faut pas y céder. Confiance, concentration. Voyez, mes très chers frères, et écoutez ces paroles avec lesquelles nous terminons, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et celui qui frappe avec persévérance à la porte, on ouvrira. Mes très chers frères, donnons-nous les moyens d'être exaucés par Dieu, et pour ce faire, il faut se conformer à toute la marche à suivre que nous avons décrite de par l'enseignement de l'Église. Ne nous relâchons pas, ni dans notre confiance, ni dans notre concentration, et Dieu, dans son infinie bonté, suppléera à notre faiblesse, sachant que le Saint-Esprit lui-même intercède en nous d'une façon incompréhensible. Mais laissons-nous exaucer de grâce, mes très chers frères, laissons-nous exaucer et arrêtons de méconnaître que nous sommes nos pires ennemis en matière d'exaucement. Que Dieu nous aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.